appel à l'aide.
Merci, Madame la modératrice. La fermeture des écoles a été une mesure d'urgence pour riposter à la COVID-19 dans le monde entier. Mais cela a une incidence forte sur le droit de l'enfant à l'accès à l'éducation. J'aimerais donc parler d'éducation et d'enseignement. Afin d'atténuer les incidences néfastes, l'on a utilisé le recours à l'apprentissage en ligne pour remplacer l'apprentissage en présentiel. Pourtant, il n'y a parfois pas assez d'accès à l'Internet, aux outils numériques nécessaires pour cet apprentissage en ligne. Et cela a donc creusé les inégalités en termes de droit à l'accès à l'éducation. Les enfants dans les pays en développement l'ont ressenti particulièrement. Les enfants qui sont dans des endroits reculés, les filles, les enfants dans des familles plus vulnérables, les enfants handicapés aussi. Toutes ces personnes qui sont plus à risque de traite des enfants, de travail forcé, de mariage forcé, de recrutement par des groupes armés, ce qui mène à un abandon scolaire total, même lorsqu'il y a réouverture des écoles. Afin de poursuivre, de protéger les enfants contre une violation de leurs droits en lien avec la fermeture des écoles, il est donc essentiel et d'une préoccupation d'ordre mondial de faire en sorte que chaque État donne ou garantisse un accès équitable à l'apprentissage en ligne pour les enfants malgré la fermeture des écoles et à garantir un accès aux écoles lorsque les écoles en présentiel ou lorsque l'apprentissage en présentiel pourra reprendre. Mais il est nécessaire pour ce faire d'avoir recours à des ressources financières techniques notamment qui ne sont pas toujours disponibles dans les pays en développement. Pour relever ces défis, promouvons une coopération internationale de manière plus rigoureuse. Il ne s'agit pas en tant qu'obligation morale, mais en tant qu'obligation juridique des enfants en vertu de la Convention sur les droits de l'enfant. L'article 4 de la Convention exige que les États parties prennent des mesures pour mettre en œuvre la Convention en disant que la mise en œuvre de la Convention est un exercice de coopération pour tous les États, mettant en exergue l'importance de la coopération internationale. Les articles 55 et 56 de la Charte des Nations Unies ont été une source d'inspiration pour la création de cet article 4. En vertu de ces articles, les États ont cette obligation juridique de coopérer les uns avec les autres pour promouvoir la promotion des droits humains, dont les droits de l'enfant. Les États sans suffisamment de ressources, doivent tout de même mettre en œuvre les dispositions de la Convention et ont donc besoin de coopération internationale au niveau bilatéral, régional, interrégional ou multilatéral. Les États parties qui ont les ressources à leur disposition en termes de coopération se doivent donc de s'engager dans cette coopération pour protéger les droits de l'enfant dans l'État récipiendaire de cette aide. Dans l'article 23 de la Convention, l'on parle du droit des enfants handicapés. L'article 24 parle des droits de l'enfant de jouir du meilleur état de santé possible et l'article 28 de la Convention parle du droit de l'enfant à l'éducation. Ces articles mettent en lumière le fait qu'on le doit absolument accorder une attention particulière aux besoins des enfants dans les pays en développement. Question importante, comment l'obligation de coopération des États au niveau international est-elle réellement mise en œuvre? Le Comité des droits de l'enfant, en tant qu'organe de suivi ou de surveillance des traités, joue un rôle clé afin de garantir cette coopération. Dans ce commentaire général numéro 5, adopté en 2003 sur les mesures générales de mise en œuvre de la Convention, a noté qu'UNICEF et que le HCDH ainsi que d'autres institutions des Nations Unies peuvent octroyer une aide technique pour accroître la mise en œuvre de certains aspects de la Convention et encourage par ce faire les États à parler de leurs efforts d'aide technique entrepris lorsqu'ils présentent des examens périodiques universels. Le comité a recommandé aux États parties spécifiquement dans ses observations de conclusion, dans ses rapports visant à dire aux États qu'ils devraient se tourner vers les institutions des Nations Unies pour une aide technique afin de mettre en œuvre certains domaines de la Convention, la santé par exemple. D'autre part, dans ses commentaires, ses observations générales, le comité dit également que les États doivent octroyer un financement particulier pour réaliser des objectifs clés, l'aide de développement 0,7% du PIB. Voici un des objectifs qui doit être réalisé. Mais les obligations de coopération internationale ne sont pas très souvent soulevées lorsque l'on parle des rapports des États et les comités ont donc fait des recommandations particulières aux pays bailleurs de fonds. Étant au vu de cette importance de coopération internationale dans la phase de relance post-pandémie, afin de garantir une pleine réalisation de tous les droits de l'enfant, droits d'éducation, droits à l'éducation, à la santé, et étant donné le peu d'attention que l'on a accordé à tout cela de la part des pays bailleurs de fonds, notamment pour leur examen, j'aimerais dire ce qui suit. Tout d'abord, les examens des pays doivent être utilisés, en vertu de la Convention, doivent être utilisés pour se pencher sur le respect ou pas de cette obligation de coopération internationale, étant donné l'ODD 17 et la cible 17.2 sur les engagements d'aide au développement, d'assistance de développement pour de la part des pays développés. En 2019, le fait que l'on en ait parlé sur la République de Corée, voici quelque chose d'encourageant. La coopération internationale est nécessaire pour la réalisation des droits de l'enfant, ce qui est repris dans les recommandations du comité. Et l'on devrait intégrer cela, non pas uniquement dans le cadre d'aide de la part des institutions internationales, mais aussi dans le cadre d'accords bilatéraux de coopération entre deux pays sur l'aide. Ces différents aspects dont je viens de parler seraient uniquement des mesures utiles à moyen ou long terme. Mais si l'on veut répondre aux besoins à court terme, le cadre de coopération internationale pour la coordination d'aide multilatérale et bilatérale pour la pérennisation ou pour la poursuite de l'enseignement. Voici un outil que l'on devrait utiliser et créer. La nécessité de coopération internationale ne se limite pas au déploiement ou à l'octroi de ressources financières. Une aide technique aussi peut être utile. Des conseils de la part d'experts visant à atténuer les incidences que peuvent avoir la pandémie sur la santé mentale des enfants. Voici un autre